Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonne fête à toutes les mamans, n'est-ce pas? Nous sommes à peu près 120, 130 ce matin à chanter le beau nom de Jésus. Mais imaginez des myriades et de myriades dans le ciel en train de chanter ce chant, oh le beau nom de Jésus. Qu'est-ce que je suis fier de faire partie de cette chorale, immense chorale, multiples voix, différentes langues, et tous autour du Seigneur Jésus. Voilà, c'est juste un échantillon ce que nous avons vécu ce matin, de ce que le Seigneur veut nous faire vivre, ce qui nous attend dans l'éternité. Waouh! J'aimerais que ça ne s'arrête pas, en fait. J'aimerais qu'on continue de chanter « Oh, le beau nom de Jésus hein, !»« Oh, le beau nom de Jésus !» En fait, lui seul nous suffit. Lui seul nous suffit. Lui seul nous nourrit. Je voudrais ce matin vous partager la lecture qui m'a nourri cette semaine. Ma méditation quotidienne m'a amené à lire dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 9, au verset 22, et ça va s'afficher derrière vous. Alors, j'avais prévu de lire tout le reste, mais on va se contenter de simplement de ce verset. Voici ce que dit l'Éternel, que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse. Vous connaissez simplement ce verset avec une autre version, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse. Mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi, l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. C'est la version second 21, hein, pour ceux qui veulent suivre, qui veulent retrouver. Alors, quelques mots du contexte. Ces versets font partie d'une longue liste de récriminations du Seigneur vis-à-vis de son peuple. Babylone et son armée sont à la porte du royaume d'Israël, royaume de Juda plus précisément, pour accomplir le jugement de Dieu. Et Jérémie appelle son peuple à la repentance. Chapitre après chapitre, verset après verset, nous entendons le Seigneur par la bouche du prophète rappeler l'injustice de son peuple et le jugement qui s'abattra s'il ne se repent pas. Qu'avait fait Israël, qu'avait fait le peuple de Juda pour que le jugement vienne à lui? Eh bien, je dirais à peu près tout. Si je peux résumer l'attitude du peuple, c'est son infidélité vis-à-vis de Dieu et de sa loi. Cette infidélité n'est pas franchement ouverte. Elle se cache derrière un formalisme religieux. On dit, mais on ne fait pas. C'est une religion des lèvres et non du cœur. Le cœur reste incirconcis. Il y a une incohérence entre la foi d'Israël et son mode de vie. Il y a décalage entre la doctrine professée et le comportement. Et cette infidélité, cette désobéissance vis-à-vis de l'alliance de Dieu se traduit dans la société par de la violence, par de l'injustice vis-à-vis des plus faibles. On ne respecte plus le droit. La société est devenue violente et injuste. Le droit des plus faibles n'est plus respecté. Il y a de la cupidité. Et puis Israël suit la voie des autres peuples, comme tous les autres peuples, parce que c'est son désir de faire comme tous les autres peuples, c'est-à-dire la pratique de l'idolâtrie. Et voilà que le Seigneur appelle Jérémie à appeler son peuple à la repentance. Et les appels du prophète Jérémie ne sont pas entendus, ne sont pas reçus. Le peuple refuse de se repentir. Et le chapitre 9 décrit Jérémie en train de pleurer et de se lamenter à cause du refus de son peuple de se repentir et de revenir vers le Seigneur. Par son cœur brisé, Jérémie témoigne du vrai cœur de Dieu, qui ne désire pas que le pécheur meure, mais qu'il vive. L'appel à la repentance vient toujours de la bonté de Dieu et non pas de son désir de juger et de punir. Dieu est lent à la colère, riche en miséricorde. Et on l'a entendu ce matin au travers de la parole qui a été dite par Jean ou au travers des paroles qui ont été dites et des prières. Pourquoi le peuple d'Israël ne se détourne pas de sa mauvaise voie? Pourquoi les appels de Jérémie restent-ils sourds au cœur du peuple de Juda? Pourquoi le peuple ne revient pas vers le Seigneur pour se repentir? Eh bien, parce qu'il s'appuie sur des faux sentiments de sécurité. Ils ont le temple qui est là debout, qui reste là depuis des siècles debout. Ils ont vu des invasions venir et le temple était leur lieu de prière. Ils ont le temple. Ils ont des porte-paroles, des sages qui les rassurent, des faux amis qui les rassurent avec de la fausse sécurité. Le peuple de Dieu est fier, mais sa fierté est mal placée. Il est fier de sa sagesse, il est fier de sa force, il est fier de ses richesses. Voilà trois domaines où effectivement les hommes trouvent souvent de quoi alimenter leur vantardise et leur fierté. Ce sont souvent trois domaines d'ailleurs qui sont source de comparaison et de compétition. L'homme peut se vanter de sa sagesse, de son intelligence qui vient de son propre fond, déconnecté d'avec la connaissance de Dieu. L'homme est fier de sa science, de son intelligence, de ses réalisations techniques, de ses compétences. Et il pense que cela vient de lui, de sa propre intelligence. Alors on compare nos diplômes, on compare les écoles que l'on a fréquentées, on cite les professeurs auprès desquels on a étudié. C'était vrai dans mon école d'infirmiers. Compétition entre la maison santé protestante et l'école d'infirmiers de Kléber ou celle de la Croix-Rouge. Cela peut être vrai aussi dans les facs de théologie. Avec cette sagesse, on peut aussi mettre dans le même panier les dons, les compétences que l'on a de manière innée ou de manière acquise. On peut être fier et tomber dans la vantardise d'avoir cela. On est fier d'avoir une belle voix. On est fier de savoir tout ce qui concerne l'eschatologie, la pneumatologie, l'ecclésiologie, etc., etc. Mais cette sagesse, cette intelligence dont l'homme est souvent fier, n'est pas la sagesse qui découle de la crainte de Dieu, comme il est dit dans le livre des Proverbes. La vraie sagesse, elle vient de la crainte de l'Éternel. Paul, parlant de cette sagesse dont on peut être fier, se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Pourquoi? Parce que cette sagesse aurait dû s'incliner et adorer le Seigneur qui a tout créé, même notre intelligence. La force peut être un autre sujet de fierté et de vantardise, effectivement. Quand j'étais jeune, avant que je rencontre Chantal, je n'étais pas fier de ma force. Je ne le suis toujours pas, d'ailleurs. C'était plutôt un sujet de honte pour moi, parce que j'étais un gringalet. 45 kilos, tout mouillé. Maintenant, j'en ai 40 de plus. Et il m'a fallu passer l'épreuve du bac, l'épreuve de sport. Et à cette épreuve, il y avait le lancer de poids. Soulever le poids de 5 kilos, le porter à mon épaule. C'était déjà surhumain déjà de l'amener jusque-là. Pouf. Le projeter, mes amis, ce poids de 5 kilos, le projeter loin, comme c'était difficile. Mes amis, le lancer, et mes collègues à l'école, le lancer à 5, 8 mètres, voire plus, pour ceux qui étaient très forts. Et moi, je disais, les 2 mètres, ça ira très bien pour moi. Encore heureux qu'ils ne tombent pas sur mes pieds. La force est un sujet de fierté et de vantardise dans notre monde. Les journaux, les sites internet en font l'étal tous les jours. Cela montre le dernier missile inventé. Et on montre les photos qui font ce qu'on peut faire avec. Le lendemain, les autres montrent la dernière batterie antimissile qui détruit le dernier missile inventé. Et l'on montre les photos à l'appui. Le surlendemain, on montre les missiles supersoniques capables de détruire le plus grand porte-avions au monde. N'est-ce pas de la folie ? Les pasteurs eux-mêmes, lorsqu'ils se rencontrent, comparent le nombre des membres de leur église. N'est-ce pas de la folie ? Je parle de la force, mais il y a d'autres valeurs qui sont montées en épingle et qui peuvent être source de fierté, de vantardise. La beauté, la mode, la technologie. Avec la force aussi va le pouvoir. J'aimerais lire avec vous simplement Daniel 4, verset 27. Voici un homme qui s'appelait Nabucodonosor, qui était quand même l'empereur le plus vaste de l'époque de Daniel. Chapitre 4, verset 27. Le roi prit la parole et s'exclama : N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ? Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre : Apprends, roi Nabuchodonosor, que la royauté t'est retirée. Et Nabuchodonosor devient comme une bête, comme un animal, mangeant et broutant de l'herbe, jusqu'à ce qu'il se repente. Jésus, lui, est venu comme une faible plante, rien pour attirer les regards. Il n'est pas venu en force comme un super-héros, mais comme un faible homme, il nous est dit, comme un serviteur. Vous savez, la faiblesse de Dieu est bien plus forte que la force des hommes, nous dit l'apôtre Paul. La richesse est une autre source de fierté, mal placée, nous dira Jérémie. Dans certains milieux, c'est le sujet préférentiel de discussion. Connaissez-vous l'histoire de ces trois femmes qui discutent entre elles ? Une dira : Mon fils est tellement riche qu'il peut acheter une boutique sur les Champs-Élysées. L'autre lui répond : Oh, mon fils est tellement riche qu'il pourrait acheter la moitié des Champs-Élysées. La troisième répond : Mais qui vous a dit que mon fils voulait vendre ? Trêve de plaisanterie. Jésus parle de cette parabole de l'homme qui se vante d'avoir des biens plus qu'il n'en faut. Alors il décide de construire pour engranger ses biens. Après quoi, il pourra vivre de ses rentes, vivre le restant de ses jours. Et le Seigneur, dans cette parabole, dit : C'est un homme insensé. Il ne sait même pas s'il va passer la nuit. La sagesse, l'intelligence, la force, la beauté, la richesse, les compétences, les talents, les charismes, la gouvernance ne sont pas en elles-mêmes des choses mauvaises, si du moins ces valeurs ne sont pas érigées en absolu, qu'elles ne deviennent pas des idoles. Et voici quelques indices pour vérifier que ces valeurs ne sont pas des idoles dans nos cœurs. Lorsqu'elles deviennent un filtre de jugement et de comparaison vis-à-vis des autres. Si la force est une idole dans ton cœur, tu jugeras selon ce critère les autres et tu mépriseras le faible et le petit. Si tu vois quelqu'un qui est plus fort que toi et que tu te compares à lui, alors tu voudras le dépasser, tu voudras être meilleur que lui. Cela peut être aussi une idole, c'est un autre indice. Si je me juge moi-même selon ses valeurs, je vous avais déjà parlé de ma grande source d'anxiété lorsque je vais dans une bibliothèque. Quand je vois toute la forme, toute le nombre de connaissances qu'il y a dans une bibliothèque et que j'aimerais avoir, au lieu de me réjouir de ce que Dieu a donné, toute cette connaissance, cela me met dans un état terrible. Alors je me soigne quand même maintenant. État terrible d'anxiété parce que je n'ai pas toute cette connaissance. Je me sens tellement petit. Je me juge au travers de ce filtre. Une idole, c'est quelque chose que l'on met à la place de Dieu, parfois à notre insu, et auquel on demande de nous donner sécurité, ou de donner prospérité, ou de nous donner identité. Ça, c'est une idole. J'étais en train de faire mes comptes. Je cochais mes dépenses sur mon relevé bancaire. Je pense que vous le faites tous. Oui, plus ou moins. Je ne le fais pas tout le temps, moi non plus. Je me suis mis en péril quand mes pensées en dérivaient. En cochant mes dépenses, comment vas-tu faire dans quelques mois? Alors que j'étais en train de gamberger, j'ai entendu une petite voix intérieure, moqueuse. Et quand j'entends cette petite voix intérieure, je sais que ça vient de mon Dieu. Elle se moque de moi gentiment, cette voix. Et puis elle me dit, quelle est petite ton idole? Quelle est petite ton idole? C'est le Seigneur qui me parlait gentiment. Où est ta sécurité? Où est ta sécurité? Dans tes comptes? Seigneur, merci pour tout ce que tu me donnes. Merci pour ce que tu me donnes. Même la pauvre veuve a glorifié le Seigneur en donnant une petite pièce dans le tronc du temple. Elle a honoré le Seigneur. Ce n'est pas la pauvreté, la richesse qui montre que tu es béni de Dieu. C'est ta relation avec lui. Quelle est petite ton idole, le Seigneur me disait. C'était à mon insu, hein. Pour éviter que ces valeurs, la sagesse, l'intelligence, la force, la beauté, la richesse, les compétences, les talents, les charismes, la gouvernance ne deviennent des idoles, je ne vois qu'un seul moyen. C'est d'être fier de connaître le Seigneur. D'être fier de connaître le Seigneur. Mais là encore, le connaître, le Seigneur, ça ne vient pas de nous. Ça vient de lui qui s'est révélé à nous, dans sa grâce, qui s'est approché de nous. C'est lui qui m'a tendu la main le 15 avril 1975. C'est lui qui s'est montré à moi. Coucou, je suis là, Norbert. Tu me connais, tu me connaissais pas, mais je viens te chercher. Et c'est lui qui est venu, par sa grâce. L'apôtre Paul dit, lorsqu'il a plu au Seigneur de se révéler, de révéler en moi son Fils, c'était une grâce, par grâce, que l'apôtre Paul trouve Jésus-Christ. Connaître Dieu, être fier de le connaître, Le chanter comme on l'a chanté ce matin, c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre sagesse, c'est ce qui fait notre richesse. Le connaître, ce n'est pas un savoir, c'est une intimité par expérience. C'est marcher avec lui, c'est vivre avec lui, c'est prendre du temps avec lui. C'est apprendre à reconnaître sa voix au milieu de toutes les autres voix du monde. Le Seigneur est notre fierté parce qu'il est bon, parce qu'il est juste et parce qu'il est droit et parce que c'est ce qu'il aime. Il y a des coups de butoir de la sagesse du monde contre la foi chrétienne. Et je pense qu'on ne sort pas indemne de ces coups de butoir. Ils sont donnés au travers des médias, au travers de la culture, au travers de ce qu'on peut lire, au travers d'Internet. Et nous sommes sensibles à ces coups de butoir, même à notre corps défendant. Parce qu'intérieurement, je peux être influencé par ce que nous entendons de la foi chrétienne. On dit que les chrétiens, ce sont des ringards, des has-been. Ils sont encore, je pense que ce vocabulaire, il est daté. Hein. Je ne sais pas comment on dit maintenant. Hein. Que nous sommes des ennemis du genre humain et de l'amour. Que nous sommes des empêcheurs de tourner en rond. Que nous sommes contre la science et la raison humaine. Que nous avons alimenté les guerres. Que nous avons enfanté Torquemada et la croisade. Que la foi chrétienne n'a amené que le mal. Et petit à petit, nous mettons notre foi dans notre poche et nous la vivons effectivement qu'en cercle fermé entre nous. Mes amis, l'ennemi fait bien son job. Après tout, oui, il fait bien son travail. Lorsque peu à peu, nous avons honte de dire que nous sommes chrétiens. Lorsque les mots deviennent difficiles, lorsqu'on veut témoigner. Alors je pense qu'il y a un temps que le Seigneur nous demande, revenez à moi, comme disait Jérémie, revenez à moi. Placez votre fierté en moi. Je suis le Dieu qui est droit, qui est bon et qui est juste. Soyez-en certains. Je suis la réponse aux problèmes du monde. Je ne suis pas la raison des problèmes du monde. Je suis la réponse aux problèmes du monde. Et ça, il faut que nous soyons convaincus. Les uns et les autres. Il faut que l'Église de Jésus-Christ en soit convaincue, qu'elle fasse sa fierté de connaître le Seigneur. Nous soyons ensemble d'être fiers d'être chrétiens. Soyons fiers d'être chrétiens, non pas à cause de nous, mais à cause de lui, à cause du Seigneur. Il est temps pour nous de revenir vers le Seigneur et apprendre à nouveau qui il est, que sa connaissance, cette intimité par expérience, soit notre nourriture quotidienne. Le corollaire qui suit la connaissance, c'est de vivre dans la reconnaissance, développer la louange dans nos vies. Ce que j'ai obtenu, sagesse, intelligence, richesse, charisme, force, compétence, tout ce que j'ai doit être l'objet de notre louange. C'est toi qui me l'as donné, Seigneur, et c'est pour qu'elle te glorifie. On a vu l'histoire d'Esther il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne me rappelle plus. Que tout ce que nous sommes, que tout ce que nous avons soit dédié à la louange de sa gloire. Parce que c'est lui qui nous l'a donné pour la louange de sa gloire. Je voudrais lire pour terminer 1 Chronique 29, verset 10. David est un roi puissant, il est au sommet de sa royauté et il va construire, il veut faire construire par son fils le temple de Salomon, qu'on va appeler le temple de Salomon. Il va réunir tous les ingrédients et toutes les richesses nécessaires pour la construction de ce temple. Et voici ce qu'il dit dans 1 Chronique chapitre 29 et verset 10. Comparez-le à Nabucodonosor, dont j'ai lu tout à l'heure la pensée et la fierté. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Et il dit, Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Qui suis-je, moi ? Qui est mon peuple ? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers, des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Pourtant, éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, c'est à toi que tout appartient. Amen. Amen. Voilà, l'Église vit de Jésus-Christ. L'Église vit de sa force. L'Église vit de sa richesse. L'Église vit de sa sagesse. C'est à lui que nous devons nous tourner. C'est de lui que vient toute chose. Nous devons être fiers de lui. Respectueux et fiers de lui. Fiers au point que l'on dit, ben, ma foi chrétienne, elle a de la valeur. Ma foi chrétienne, je peux te la partager. Ma foi chrétienne, je peux la défendre face à tes arguments. Oui, nous avons un Dieu extraordinaire, un Dieu extravagant. Ce matin, le Seigneur nous a parlé de fleurs et de feuilles qui pouvaient cacher la fleur. Parfois, ce sont ces feuilles, nos compétences, nos charismes, etc., qui peuvent cacher la fleur. Ne faisons pas de tout ce que nous avons des idoles. Faisons du cœur de l'Évangile, voilà, notre cœur à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.